Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info, votre débat d'actualité à tête reposée normale. On est toujours au cœur de l'été. Ce soir, les informés s'appellent Patricia Balme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicante, présidente de PBcom International. Bonsoir Christophe Pirel.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Élysée. Nous sommes aussi avec Jean-Christophe Gallien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et président de JCGA. Enfin, Julien Leclerc a pris un abonnement aux informés, bonsoir.
Bonsoir.
Chef d'entreprise et écrivain, auteur notamment de Rendez-vous avec la France qui bouge, 100 initiatives qui changent tout. Au programme ce soir, on ne parle pas encore d'affaire Alexis Kohler, mais la polémique enfle. Le secrétaire général de l'Élysée a-t-il caché ses liens familiaux avec MSC Croisières quand il siégeait au port du Havre? La justice le dira, mais ça fait une plainte et une pierre de plus dans le jardin d'Emmanuel Macron. Par chance, il ne la voit peut-être pas par la fenêtre. Le président est toujours en vacances à Brégançon, mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler. C'est vrai, elle ne s'appelle plus comme ça, mais la police de proximité fait son retour dans le débat. Plusieurs élus à Grenoble y voient une solution pour mettre fin à la violence, celle qui a coûté la vie à Adrien Pérez, tué de plusieurs coups de couteau. C'était il y a 10 jours et on va en débattre. On parlera aussi de l'Argentine. De quoi je me mêle le pape François? C'est ce que lui reproche. En tout cas, les pro-avortements, alors que le pays doit décider tout à l'heure de légaliser ou pas le droit à l'IVG. Un pays coupé en deux où l'Église fait donc campagne pour le non. Et puis, l'homéopathie stop ou encore les petits granulés blancs doivent-ils toujours être remboursés par la sécurité sociale? Ce sera notre dernier débat tout à l'heure. Alexis Kohler a-t-il menti? Le secrétaire général de l'Élysée est de nouveau pointé du doigt après une enquête de Mediapart et des documents publiés lundi qui ont convaincu l'association Anticor de déposer une nouvelle plainte contre lui, plainte pour prise illégale d'intérêt. Le problème, c'est qu'entre 2010 et 2012, alors qu'Alexis Kohler siège au conseil de surveillance du port du Havre, il a voté, il a approuvé des contrats avec le groupe de croisière MSC. Problème, il a des liens familiaux avec cette entreprise et il ne s'est donc pas toujours déporté des dossiers concernant MSC, comme il l'avait dit dans un premier temps, pour se défendre dans le cadre d'une première enquête pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence qui a été ouverte au mois de juin par le parquet financier et qui concerne cette fois les chantiers navals de l'Atlantique. Bref, tout cela a le don d'agacer Jean-Baptiste Souffrant, c'est l'avocat de l'association Anticor.
On a l'impression que c'est un peu un parallèle avec l'affaire Benalla ou avec d'autres affaires qui actuellement portent sur l'Élysée ou sur le gouvernement. C'est-à-dire que vous présentez des faits qui en eux-mêmes posent question, on vous oppose une fin de non-recevoir en vous disant non, mais attendez, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, tout ça est tout à fait normal. Le lendemain, vous apprenez un nouveau truc, le surlendemain, vous apprenez encore quelque chose, etc. Et avec à chaque fois des versions contradictoires et des éléments supplémentaires. Pourquoi ne pas l'avoir révélé au moment où le scandale a éclaté il y a 2 mois?
Jean-Baptiste Souffrant, l'avocat de l'association Anticor, qui a donc déposé une nouvelle plainte aujourd'hui. Est-ce qu'Alexis Kohler se trouve à nouveau empêtré dans une défense, disons, qui est encore prise à défaut une nouvelle fois, Jean-Christophe Gallien?
C'est un avis de mauvais temps quand même qui plane sur l'Elysée, alors qu'il y a une canicule dehors. Là, ils ont anticipé les orages qui vont venir et c'est vraiment très 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 mauvais. Puisque là, on sent bien que ça fait 2 fois qu'il ne dit pas tout à fait la vérité. En tout cas, s'il va y avoir une explication de texte très forte, ça rajoute effectivement une nouvelle tâche, une seconde tâche en très peu de temps à la virginité toute blanche de la présidence Macron. C'est un moment particulier, c'est un moment difficile, mais je dirais que c'est presque encore un peu différent, puisque là, dans cette affaire, lorsqu'il est censé favoriser, semble-t-il, sa famille, il est censé d'abord représenter les intérêts de l'État. Il le fait à chaque fois comme représentant des intérêts de l'État, agence des participations, et on est face à quelque chose qui est d'une autre nature, et pour le coup presque un peu plus grave que l'affaire Benalla.
Patricia Balme.
Je pense que quand on choisit d'être dans le public et non dans le privé, ben il faut tout dire avant. Et tout le problème est là. La vie professionnelle de ces hommes est un choix. À partir du moment où on fait ce choix, on décide de tout dire avant. Maintenant, le problème pour le président Macron est le suivant. Et en termes d'image, de communication, est-ce que on doit réagir ou surréagir par rapport à ce que publient les médias, en l'occurrence c'est Mediapart qui là publie cette nouvelle information, ou est-ce qu'on on reste maître du temps et des horloges? Alors moi je serais plutôt d'accord pour qu'un président n'agisse pas forcément au moment où une affaire sort dans les médias. En revanche, le problème de cette affaire précise, c'est qu'elle arrive après ce qu'on a appelé l'affaire Benalla. Et là, effectivement, pour les Français, même s'il y a une trêve estivale, que les gens sont en vacances, malgré tout, c'est une seconde tâche dans ce début de quinquennat. Et à mon avis, à la rentrée, le président de la République va être obligé de faire un grand ménage et dans son entourage. Alors, sacrifier Alexis Kohler va être très difficile pour lui parce qu'il a vanté ses qualités en disant il est plus intelligent que moi, c'est un homme brillant.
C'est son bras droit à l'Élysée.
Exactement. Et secrétaire général de l'Élysée, c'est pas un poste anodin. C'est presque le vice-président de l'Élysée. C'est un patron de l'Élysée. Vous qui avez travaillé à l'Élysée, vous le savez.
Allez-y, justement.
Oui, non, c'est sûr que ça met quand même en porte-à-faux l'un des personnages principaux de la présidence. Mais vous savez, je trouve que ce nouveau monde commence à ressembler cruellement au monde des années 80. C'est-à-dire que, quand même, ces dernières années, on avait l'habitude, quand il y avait une affaire, de voir les gens démissionner. C'est-à-dire que Fawzi Lamdaoui, cabinet de François Hollande, et je prends des gens qui sont de chez nous, Aquilino Morel, qui a démissionné, Bruno Leroux, on lui a laissé même pas une journée, il a toujours pas d'ailleurs été jugé. Dès qu'il y avait suspicion, en fait, les gens s'en allaient. Il s'avère que dans les affaires qui se commence à se dérouler devant nos yeux, c'est tout l'inverse. Et même d'ailleurs, on entrave un peu la justice ou on entrave le Parlement. C'est-à-dire que dans l'affaire Cahuzac, c'était l'opposition qui menait la commission d'enquête. Là, on fait écrouler en fait le Parlement devant nos yeux dans une commission d'enquête. Ou bien, on laissait quand même la justice faire son travail ou les perquisitions se faire correctement. On a vu dans l'affaire Benalla que on a mis 24 heures pour pouvoir enfin trouver un coffre, comme si on savait pas ouvrir une porte.
Enfin, perquisition.
Tout ça, oui, pardon, il y avait une perquisition. Tout ça faisant qu'à un moment, on a quand même des suspicions sur ce que l'Élysée fait, sur la façon dont est géré l'État. Il y a beaucoup d'opacité et toute la clarification, et notamment avec la création de la haute autorité, de la transparence de la vie politique, etc., sont un peu mis à mal par tout ce qu'on commence à voir depuis quelques semaines sous nos yeux et qui, hélas, peut révéler encore plein d'autres choses. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et on poursuit ce débat dans un instant, c'est promis. Et d'abord, 20h10, l'essentiel de l'info avec Augustin Arrivé.
Alexis Kohler, de nouveau soupçonné de conflit d'intérêts, le site Mediapart publie des documents indiquant des contrats passés entre un armateur dirigé par des membres de sa famille et le port du Havre. Ceci à l'époque où l'actuel secrétaire général de l'Élysée siégeait au conseil de surveillance du port. L'association Anticor a porté plainte. 17 départements du sud de la France en vigilance orange météo France pour des risques d'orages. La vigilance canicule n'est plus d'actualité. Plusieurs plages marseillaises ont été interdites à la baignade. Les intempéries font planer un risque de pollution de la mer, même si pour l'instant la qualité de l'eau n'est pas affectés. Le mouvement de grève s'étend chez Ryanair. En plus des pilotes belges, suédois et irlandais, les Allemands et les Néerlandais se sont ajoutés au préavis posé pour la journée de vendredi. Conflit sur les conditions de travail et les salaires au sein de la compagnie. 3000 personnes réunies à Amiens cet après-midi pour commémorer le centenaire de la bataille qui a ensanglanté la région pendant la Première Guerre mondiale. Plusieurs dizaines de milliers de soldats tués et le début d'une offensive qui mènera à l'armistice. La première ministre britannique Theresa May assistait à la cérémonie. Après les députés argentins, les sénateurs du même pays votent ce soir pour légaliser ou non l'avortement. Une majorité d'entre eux disent vouloir s'y opposer. Le projet de loi prévoit une IVG gratuite jusqu'à 14 semaines. Un titre supplémentaire pour la France au championnat d'Europe multisport en Écosse. Il s'agit du 4x100 mètres de natation mixte avec l'or pour Mehdi Metella, Charlotte Bonnet, Jérémy Stravius et Marie Vatel.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et on parle de ces nouveaux soupçons de conflit d'intérêts à l'encontre d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Une nouvelle plainte, en tout cas, a été déposée aujourd'hui à son encontre par l'association Anticor. Est-ce que c'est un gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, un caillou de plus, Julien Leclerc ?
Oui, ça c'est une certitude, surtout si l'affaire se confirme. Je voudrais réagir à ce qu'on vient de dire. Moi, je ne sais pas s'il faut souhaiter qu'il y ait une démission automatique et immédiate à chaque fois qu'il y a suspicion, parce qu'en politique, quand même, il y a un peu suspicion tout le temps. Et je ne sais pas si c'est signe d'une démocratie qui va bien quand tout le monde se démissionne à tout bout de champ. Il y a quand même une différence aussi, c'est que là, il faut rappeler que les faits ont eu lieu il y a 7 ou 8 ans, donc bien avant sa prise de fonction
entre
à l'Élysée.
Entre 2010 et 2012, là, pour la fin.
Benalla, en l'occurrence, il était quand même en fonction pour l'Élysée quand tout ça est arrivé. Donc je ne sais pas si on doit, en tout cas, hiérarchiser la gravité des faits. Je ne sais pas si j'aurais la même vision que vous, mais je voudrais quand même mettre un tout petit point de vigilance. J'ai un peu l'impression... dans l'époque qu'on vit, notamment parce qu'il y a une très grande violence sur les réseaux sociaux en permanence, qu'on a tendance à mettre un peu tout dans le même panier. les Balkany et consorts, on n'en veut plus. Ça, c'est une certitude et c'est là-dessus qu'Anticorps a été créé. Et je salue mille fois l'initiative de ce collectif. Néanmoins, je vais reprendre un exemple qui m'avait un peu choqué il y a quelques semaines. J'avais pris la défense de Marlène Schiappa, qui avait été mise en cause par le même collectif Anticorps pour deux mails malheureux qu'elle avait envoyés de son secrétaire d'État. On avait l'impression qu'elle avait fait la même chose que Cahuzac, qui nous avait regardé les yeux dans les yeux pour nous demander de payer nos impôts pendant qu'il envoyait son argent à Singapour. Moi, ça m'avait touché personnellement, puisque j'habite à côté de chez lui, dans le Lot-et-Garonne. Il faut qu'on remette un petit peu les choses en situation et qu'on sache dire ce qui est vraiment grave et ce qui l'est peut-être pas.
Beaucoup de mou dubitatif dans
le cadre des informés.
Jean-Christophe Gagnard, d'abord.
Moi, je pense que pour le coup, Benalla, c'est évidemment quelque chose qui est important puisque ça s'est passé maintenant pendant la présidence Macron. Il était dans le cabinet. Mais colère, c'est quand même pas rien. Vous l'avez dit tout à l'heure, on fait un choix, on est dans le secteur public, on est un haut fonctionnaire. Et le système français, et c'est là où c'est pas rien, et c'est là Anticorps a raison de porter le doigt, c'est pas l'affaire simplement de Monsieur Kohler qui est en cause dans cette affaire. C'est l'affaire de ce mélange des genres à la française qui devient insupportable. C'est-à-dire que on a une autre fonction publique qui fait des allers-retours permanents entre le privé et le public et le privé, qui mélange tous les genres à un moment donné. Ça se passe pendant l'été, ça n'est pas rien non plus, c'est pour ça que pour Macron c'est grave. Les gens partent pas en vacances, ils partent en vacances avec leur smartphone, il y a la canicule, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu l'affaire Benalla, maintenant l'affaire Kohler. Donc c'est un moment très dur pour lui, mais justement très dur. On peut pas accepter que le vice-président qui est à l'Élysée puisse être soupçonné, et peut-être jugé, pour conflit d'intérêts, alors qu'il est censé défendre les intérêts de l'État. Ça n'est pas possible en France, comme ça n'est pas possible aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ça ne doit pas l'être possible en France. Et ça met en évidence ce rapport étrange, et qu'il faut corriger, ce rapport qui naît d'une mixité peu ou très très difficile à accepter, et surtout un peu mélangeant trop souvent les genres entre les hauts fonctionnaires et le secteur privé et vice versa. Et ça, c'est très français, c'est beaucoup trop français. Pour ceux qui se baladent un peu partout en Europe ou ailleurs, c'est mon cas, c'est beaucoup moins le cas dans les autres pays.
Patricia Balmelezi.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les gens qui ont démissionné, vous avez cité
à Christophe Pirel.
Pardon. Absolument. Vous avez cité Aquiline de Morel et bien d'autres. À partir du moment où Alexis Kohler ne décide pas de démissionner, il est très difficile pour le président de la République de le limoger tout de suite, parce que ce serait un aveu de faiblesse et une manière de surréagir par rapport aux médias.
Il l'avait fait avec Bayrou. Bayrou et le modèle, il l'a fait très vite l'année dernière.
Vous imaginez bien que la plupart des gens qui étaient concernés par des affaires n'avaient pas la volonté de démissionner, et que tant que le chef ne dit pas « tu t'en vas », la démission, elle tombe pas.
François Bayrou, il y a un an, il l'a fait en 24 heures.
Les affaires, quand elles naissent, et c'est un peu la jurisprudence DSK à l'époque quand il était à Bercy, et Jospin lui avait dit, tu sors temporairement, le temps que tu règles tes problèmes, et si tu es blanchi, tu reviens.
Il les a pas réglés tout de suite.
Oui, il les a pas réglés tout de suite, mais il s'avère que, quand même, après une période de 5 ans, et il y a une chose, alors on peut critiquer tout le bilan de François Hollande autant qu'on veut, mais il y a une chose sur laquelle je pense qu'on peut être fier, c'est que c'est un homme intègre et qui a remis un peu de transparence dans la vie politique, et que ça fait pas de mal. Et que ça fait quand même maintenant quelques semaines qu'on a l'impression que tout ça est largement perturbé par ces affaires qui naissent. Et moi, je suis désolé, ça redonne pas de la confiance dans la vie politique. Et moi, je le redis à chaque fois, ces affaires-là, elles sont bénéfiques non pas pour le PS, non pas pour les Républicains, elles sont bénéfiques pour les extrêmes. Et qu'à la fin, quand il n'y a pas de transparence dans la vie politique, et quand on affiche ça, et c'est bien ça que je voulais dire, non pas qu'il faut y démissionner ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut donner l'exemple à un moment. Les Français, ils attendent de l'exemplarité de la vie politique, et tout ce qu'on voit, c'est pas de l'exemplarité. Et tout ça, ça va basculer où ? Vers l'extrême droite. Et c'est Marine Le Pen, c'est le FN, etc., ou Marion Maréchal Le Pen dans le futur, qui vont récolter les fruits de toute ces turpitudes de la vie politique. Et ça, c'est pas nouveau monde, j'en suis navré.
Oui, mais c'est pas les mêmes ressorts. Je voudrais juste qu'on soit exemplaire, on en a vachement besoin, qu'il y ait une vraie exemplarité du politique et les partis traditionnels.
Ça n'est pas un homme politique. Attention, il ne faut pas mélanger, faut pas tout mélanger. C'est pas un homme politique.
Mais il est politique.
D'accord, mais il n'est pas élu.
C'est la
responsabilité
du président.
Je voudrais réagir là-dessus.
Allez-y,
je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, donc oui, cette affaire est grave et la gravité viendra de la justice, je l'espère. Ne condamnons pas avant d'avoir jugé.
Bien sûr, bien sûr.
Mais surtout, je me félicite, je suis désolé, mais d'avoir des politiques qui ne sont pas forcément des politiques professionnelles. Moi, j'en ai eu marre,
Pas, non, mais quand je dis que c'est pas un politique, c'est qu'il n'a pas été élu, il exerce un fonctionnaire qui exerce une fonction.
Vous critiquiez le mélange des genres. Moi, je m'en félicite. Je suis content qu'on, si on peut avoir, et on a souhaité ça, et je pense que ça explique un petit peu le succès d'En Marche, si on peut avoir des gens qui ont une connaissance de la vie civile, de l'entreprise, etc.
On s'est mal compris à ce moment-là, ça n'est pas le mélange des gens. Au contraire, plus il y a de diversité en politique, mieux c'est. Alors là, je m'en féliciterai. Et justement, c'est pour éviter cela. Et là, ce dont je parle, c'est quelque chose que vous connaissez à l'intérieur des grandes entreprises, dans les conseils d'administration des entreprises, dans les fonctions exécutives des entreprises françaises. Il y a beaucoup de mixité, d'aller-retour entre le secteur public aux fonctionnaires, parce qu'ils sont aux fonctionnaires, et le secteur privé, pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'entrepreneuriat, des raisons de récompense par rapport à un certain nombre de secteur. C'est ça dont je parle. Et ça, c'est très français et ça pose des questions. Le dossier Alstom l'a posé cette question. D'autres dossiers ont posé. Celui-là pourra en poser. Et ça, c'est pas tout à fait normal.
C'est pas la même question que vous soulevez. En fait, vous soulevez le pantouflage en fait des hauts fonctionnaires. Le fait qu'il y ait des gens
On a bien entendu ce problème. Si je pose la question assez simplement, on va essayer d'avoir des réponses aussi relativement courtes. Est-ce qu'il doit démissionner Alexis Kohler, Christophe Pirenne?
Moi, je pense qu'il doit se mettre en retrait. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a une suspicion à quelque chose. Et si il est blanchi, eh bien, il reviendra. Et en plus, il n'est pas
plein.
C'est un haut fonctionnaire et il retrouvera largement.
Bayrou n'est pas revenu. Et personne ne revient.
Même question, Jean-Christophe Galland.
Oui, moi, je pense qu'il doit, parce qu'il doit protéger son président, qui n'y est pour rien dans cette affaire, pour le coup. Et c'est là-dessus que j'insiste. Ça n'est pas le politique qui est en question. C'est la haute fonction publique de ce pays.
Alors moi, je serais un petit peu plus modéré. Je dirais qu'il doit s'exprimer. Il doit expliquer, il doit parler aux Français, il doit donner une grande interview, expliquer les choses.
Alexis Kohler, pardon.
Bien sûr.
S'il est aussi clair
d'Alexis Kohler. Oui. Non, mais Alexis Kohler doit prendre la parole, expliquer. Et ce sera peut-être au président de lui dire après s'il doit démissionner.
Ou il parle un peu plus longuement que quand il présente le Premier ministre, par exemple.
Par exemple.
Julien Leclerc, même question, est-ce qu'il doit démissionner?
S'il a fait ce qu'on lui reproche, je ne suis pas certain qu'il doive vraiment s'expliquer dans la presse. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il doit démissionner. Je pense que le président de la République doit respecter la volonté affichée d'une République irréprochable et doit lui demander de partir.
Allez, quelque chose me dit qu'on en reparlera dans les jours à venir de cette affaire. Peut-être Alexis Kohler. Je vous rappelle qu'une plainte a été déposée, une deuxième plainte par l'association Anticorps. On va passer à un tout autre sujet dans un instant dans les informés. Mais d'abord, il est 20h20 et c'est l'essentiel de l'info avec Augustin Arrivé.
Le constructeur BMW va rappeler plus de 300 000 véhicules en Europe et la France est concernée avec 23 500 voitures diesel. Des risques d'incendie du moteur, les moteurs défectueux seront remplacés. La direction de la compagnie aérienne Ryanair refuse pour l'instant d'imaginer des augmentations salariales. C'est l'une des revendications de plusieurs syndicats de pilotes à travers l'Europe. Allemands et néerlandais cesseront le travail vendredi comme leurs collègues suédois, belges et irlandais. La vigilance orange aux orages sur un arc de cercle allant des Pyrénées-Atlantiques au Bouge du Rhône en remontant jusqu'à l'Allier. 17 départements au total, mais la canicule, elle, s'est estompée. Le secrétaire général de l'Élysée siégeait au conseil de surveillance du port du Havre quand des contrats ont été signés avec un armateur dirigé par des cousins de sa mère. Révélation du site Mediapart qui valent à Alexis Kohler une nouvelle plainte de l'association Anticorps pour des soupçons de conflit d'intérêts. 600 personnes dans le centre-ville de Grenoble pour une marche blanche en mémoire d'Adrien Pérez. Il s'agissait aussi de dénoncer l'insécurité dans l'agglomération. L'homme de 26 ans a été poignardé à mort fin juillet à la sortie d'une boîte de nuit. Simone Gbagbo est sortie de prison. Ce matin, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, accueillie à son domicile d'Abidjan par un millier de ses partisans, elle a bénéficié d'une amnistie décidée par le président actuel Alassane Ouattara. 4 médailles françaises aujourd'hui en Écosse, toutes en natation. Les championnats d'Europe multisport continuent et donc ce titre décroché par le relais mixte du 4x100 mètres, Charlotte Bonnet, Marie Vatel, Mehdi Metella et Jérémy Stravus.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Les informés ce soir, la communicante Patricia Balm, le politologue Jean-Christophe Galien, l'ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Élysée, Christophe Pirel et Julien Leclerc, chef d'entreprise et écrivain. On passe à un tout autre sujet, on va parler notamment de la police de proximité. Une marche blanche a eu lieu tout à l'heure à Grenoble en Isère, 10 jours après la mort d'Adrien Pérez, un jeune homme de 26 ans, tué de plusieurs coups de couteau devant une boîte de nuit alors qu'il fêtait son anniversaire et qu'il voulait simplement défendre un ami. Ce sont justement ses amis, Adrien, qui ont organisé cet hommage. Ils veulent dire non à la violence, non à la barbarie et à l'insécurité de plus en plus fréquente. Alors qu'un autre jeune homme a été gravement blessé, lui aussi au couteau à Grenoble dimanche dernier. Plusieurs élus là-bas dénoncent cette violence en augmentation dans la banlieue de Grenoble. Jean-Philippe Blanc, le maire Les Républicains de Mélan, demande aussi plus de moyens.
Il faut des moyens qui sont colossaux et que l'État doit mettre en œuvre. Non seulement il faut de la police de proximité, mais il faut aussi renforcer la justice. Il faut renforcer la police nationale ou la gendarmerie. Il faut renforcer les services sociaux de façon à pouvoir accompagner toutes les personnes en difficulté dans ces quartiers sensibles. Donc ça a un coût. C'est un coût qui est très très élevé. Néanmoins, si l'État ne reprend pas la main, on n'y arrivera jamais.
Le maire de Meylan, Jean-Philippe Blanc, qui demande donc lui aussi un retour de cette police de proximité à Grenoble. Dans sa nouvelle version, je vous rappelle qu'elle s'appelle la police de sécurité du quotidien. Et Grenoble ne fait d'ailleurs pas partie des 30 premiers quartiers ciblés par le déploiement de ce que le gouvernement a appelé la reconquête républicaine. Est-ce que ça pourrait pourtant être la solution à l'avenir pour éviter de tels drames, Patricia Balm?
Je crois que la sécurité fait partie des principales préoccupations des Français. Dans l'ordre, il y a la sécurité, la santé et le pouvoir d'achat. Dans le cas de Grenoble, qui est et de la périphérie de Grenoble, qui est une ville particulièrement sensible, je ne comprends pas que Grenoble n'ait pas été sélectionné et retenu, en tout cas pour qu'il y ait une police de proximité ou de sécurité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'exécutif ne peut pas faillir sur un tel sujet. Ce sera apporté au bilan de l'exécutif dans 4 ans. Et c'est un sujet majeur aujourd'hui. Et je terminerai en disant que si le gouvernement, l'exécutif échoue sur ce sujet, ce sera la porte ouverte à l'extrême droite.
Christophe Pirel.
Je pose une question toujours. Moi, c'est où est Gérard Collomb, en fait? C'est un peu la question éternelle. C'est qu'on a un ministre de l'Intérieur, enfin soi-disant, qui apparemment ne sait rien sur les affaires et en plus ne sait rien sur ce qui se passe en France, notamment en termes de sécurité. Et l'agglomération de Grenoble, c'est vrai, est un cas qui depuis longtemps est sous tension. C'est une agglomération énorme, en fait. On réalise pas, c'est 450 000 habitants, l'agglomération de Grenoble, qui a des difficultés. Et la réponse, qui est celle de la police de proximité, est une réponse. Mais ça ne peut pas être la réponse. En fait, ça va être un pan de l'ensemble des solutions qu'il faut apporter. Et c'est un problème à prendre à bras le corps. Il y a des territoires comme ça où il y a des tensions par moment, par géographie et puis par moment dans l'année. Enfin, Marseille peut être un exemple, mais Grenoble est souvent assez ignoré. Et on met assez rarement les moyens nécessaires pour faire en sorte que les solutions soient trouvées pour cette agglomération. Je pense que c'est dommage. La police de proximité, moi je le dis, hein, c'est une des réponses. Mais ça ne peut pas être la seule et unique réponse.
Julien Leclerc.
Je suis d'accord avec Patricia Balmé. On est sur une des missions essentielles de l'État. Il ne doit absolument pas faillir. Et là, il faillit. Et on a l'impression qu'il y a encore eu une agression au couteau aujourd'hui à Paris dans un bus mortel. On a l'impression qu'il y en a un petit peu tout le temps, et notamment à Grenoble. La police de proximité, il en faut. C'est quand même une solution à laquelle Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de mal. Plus on aura de monde sur le terrain, j'ai été éducateur pendant 10 ans, plus on arrivera à prévenir. On ne pourra pas empêcher définitivement l'homme de se faire du mal, mais on pourra prévenir. Il y a quand même autre chose à mettre en avant, c'est la non-application des peines. Demandez à n'importe quel policier, ils les prennent, parfois sur le fait, ils sont condamnés et ils sont le lendemain dans la rue.
C'est d'ailleurs ce qui ressortait un peu du sondage, entre guillemets, qu'avait fait le gouvernement au moment de lancer cette police de sécurité du quotidien. Il y a beaucoup de policiers, presque 80% qui pensent ça, effectivement. Mmh. Jean-Christophe Gallien.
Moi, alors, je suis tout à fait d'accord sur la deuxième partie du constat, qui est de dire qu'il y a une difficulté de relation aujourd'hui entre le travail policier et le travail de la justice, et qui n'est pas traité et qui est en train de monter dans les affaires de sécession de ce pays. Il y a la sécession entre certaines populations et d'autres. Il y a la sécession entre, voire une séparation entre la police et la justice qui est très inquiétante. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que la police de proximité, ça fonctionne comme un slogan aujourd'hui quand on sait plus quoi faire. Je veux dire ça. Même Lionel Jospin, qui a créé ça en 1998, a avoué à la fin de son mandat qu'il s'était trompé sur beaucoup de choses, mais c'est ça là-dessus en particulier, et que c'était un échec total. Et c'est une série d'échecs en continu.
Il n'a pas vraiment dit ça.
Il l'a dit sur la police de proximité. Il l'a dit. On peut le retrouver. Je vous tranquillement. Il l'a dit. Et je pense qu'il n'est pas le seul à le partager. Policiers, ce qu'ils pensent de cette affaire.
Il disait justement que ce n'était pas la solution unique et qu'il aurait dû faire preuve de plus de fermeté sur l'autre partie.
Exactement.
Mais ce n'était pas inutile.
Mais que ce n'était pas utile parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire et que tous ceux qui travaillent sur cet aspect-là ne font plus leur travail. Et les policiers aujourd'hui, si vous leur posez la question, ils savent que c'est un échec et une série d'échecs. Donc ce qui veut dire que, par contre, l'enjeu de la sécurité, à Grenoble comme ailleurs, à Grenoble en particulier parce que c'est une ville qui est en difficulté par rapport à ça, c'est aussi une forme de fermeté qui n'existe pas, qui est une fermeté qui passe par ce travail de relations efficaces entre la police et la justice. justice et par un traitement du travail policier qui ne soit pas ensuite démembré par une justice trop lente, trop laxiste, trop différenciant. Donc, ce qui veut dire qu'on a un ensemble qui passe par la prévention très fortement. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens qui sont déjà mis en place, en œuvre. Mais il faut à un moment donné que cette forme d'autorité qui n'est plus reconnue dans des espaces où il faut le dire pour des raisons à la fois économiques et sociales tout à fait dommageables, mais aussi pour des raisons parfois de comportement culturel et surtout d'une économie qui n'est, elle, pas du tout l'économie dont on parle au départ, mais une économie souterraine, ouais. Et on ne peut pas la toucher, et là, c'est là où il y a une difficulté aujourd'hui.
Les élus, hein, toute étiquette confondue, parlent effectivement de trafic en tout genre dans l'agglomération de Grenoble. Christophe Pirel.
Non, mais il faut faire, je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut faire preuve de fermeté et d'exemplarité aussi dans la justice, c'est-à-dire que il y a des affaires comme ça aussi qui sont symboliques, et la justice peut pas se rater, ouais. Mais que ça soit dans les affaires dans les quartiers de ce type-là, ouais. Des affaires de drogue, ou que ça soit l'affaire de Booba, enfin, c'est les mêmes choses, c'est-à-dire que là, la justice ne peut pas faillir, on peut pas avoir des exemples dans nos quartiers comme dans les aéroports d'échecs de la justice.
Elle l'a fait dans l'affaire Bouvard, hein, parce que c'était très vite fait.
Non, mais bien sûr, et elle devrait faire preuve justement de cette même fermeté tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce couperet en fait qui tombe à un moment, et c'est tout ça est complémentaire. Moi je crois la police de proximité, sans doute contrairement à vous, mais pas seule. Elle peut pas tout régler.
C'est déjà la fin de la première partie des informés. Restez avec nous. On revient dans tout juste 3 minutes.
Ils sont de retour à Marseille.
Oh, l'arrêt exceptionnel de Steve Mandanda.
À Lyon.
Nabil Fekir dans la surface. But de Nabil Fekir à la 74e minute.
À Paris.
Pas de hors-jeu pour Mbappé. Ça fait but.
Pas de week-end sans vos champions. Pas de week-end sans Beansport. Ce week-end, vivez la reprise de la Ligue 1 Conforama. Samedi, suivez le Multiligue 1 avec 5 matchs en direct. Et dimanche, ne manquez pas Olympique Lyonnais Amiens SC et Girondins de Bordeaux RC Strasbourg en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
Sébastien Léa, sa météo France.
Attention aux orages et aux fortes pluies. Une vigilance orange est d'ailleurs en cours. Une perturbation atlantique bien pluvieuse aborde le pays et va glisser d'ouest en est entre cette nuit et demain après-midi. Dans le même temps, sur l'est du Languedoc et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un épisode méditerranéen qui va se mettre en place et qui donnera des pluies abondantes tout au long de la journée de demain. En plus de ces fortes pluies, il faudra aussi compter sur des orages et même parfois de la grêle et de violentes rafales de vent. Avant l'arrivée des pluies, la matinée sera encore lumineuse entre le Grand Est, Rhône-Alpes et la Côte d'Azur. Des éclaircies vont progressivement revenir par l'ouest, gagnant jusqu'à l'Auvergne et au Berry demain après-midi. Ce temps agité s'accompagnera d'un refroidissement avec des températures qui seront comprises entre 18 et 23 degrés demain après-midi sur la moitié ouest et 24 à 33 degrés plus à l'est.
Sébastien Léas, excellente soirée sur France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info, Augustin, arrivé.
C'était il y a exactement 100 ans, le 8 août 1918, les forces alliées lançaient une offensive pour faire reculer l'armée allemande postée dans la Somme. La bataille d'Amiens, commémorée aujourd'hui dans la ville. Vanessa Lamar, le prince William et la première ministre britannique Theresa May s'étaient déplacés pour l'occasion.
Après l'allocution de bienvenue de l'évêque d'Amiens, Mgr Le Borgne, le prince William a ouvert la cérémonie. Il a rendu hommage aux soldats britanniques tombés sur les champs de bataille avant de saluer l'engagement des alliés.
Amiens symbolisa l'entente cordiale, la coopération sans laquelle la victoire était impossible. Il est donc profondément approprié que cette même coalition internationale soit de nouveau réunie à Amiens en ce jour aux côtés de notre ancien ennemi dans un esprit de paix et de partenariat.
La cérémonie a été ponctuée de moments musicaux et de lectures de textes de l'époque par les personnalités et par les militaires de toutes les nations. Le maire d'Amiens, Brigitte Fourré, a lu un extrait du journal du maire d'Amiens de 1918, Herménégilde Duchaussois.
La journée du 8 août restera célèbre. C'est la victoire et c'est la délivrance d'Amiens. On va pouvoir réintégrer. Nous ne serons plus des réfugiés.
Très rythmée, cette cérémonie a duré 1h20 et s'est achevée par les hymnes nationaux britanniques et français.
Vanessa Lamarre de France Bleu Picardie pour France Info. Alexis Kohler, de nouveau soupçonné de conflit d'intérêts et comme au mois de juin, c'est l'association Anticor qui porte plainte. Des contrats ont été passés en 2010-2011 entre le port du Havre et l'armateur MSC, dirigé par des cousins de l'actuel secrétaire général de l'Élysée. Ceci alors qu'il siégeait, lui, au conseil de surveillance du même port. Information révélée par le site Mediapart. La vigilance canicule entièrement levée par Météo France. En revanche, le risque d'orage persiste sur la moitié sud du pays. 17 départements depuis la côte aquitaine jusqu'aux Bouches-du-Rhône en passant par l'Allier, avec également un risque de pollution des eaux du littoral marseillais. 6 plages de la commune sont interdites à la baignade par sécurité depuis ce matin. Des pilotes allemands et néerlandais de la compagnie Ryanair rejoignent l'appel à la grève lancé pour après-demain vendredi par plusieurs syndicats suédois, belges et irlandais. Un conflit qui porte à la fois sur les rémunérations et sur les conditions de travail au sein de la compagnie aérienne. La direction a refusé jusqu'ici l'hypothèse d'une augmentation des salaires. La mise en examen d'un élu républicain de la Chambre des représentants, Christopher Collins, l'un des premiers soutiens de Donald Trump. Il est poursuivi pour avoir prévenu son fils de la dégringolade imminente de la valeur boursière d'une société de biotechnologie. Le fils en était actionnaire et a pu éviter des pertes colossales. La société venait de connaître un échec clinique qui n'avait pas encore été rendu public. 2 médailles en une seule journée pour Charlotte Bonnet à l'Euro Multisport en Écosse, le bronze sur le 100 mètres et l'or avec le relais mixte du 4 x 100 mètres, titre qu'elle partage avec Jérémy Stravius, Mehdi Metella et Marie Vatel. Il est 20h33 et on retrouve Aurélien Accard pour la suite des informés.
20h21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et les informés de France Info ce soir s'appellent Patricia Balme, communicante présidente de PBCom International, Christophe Pirel, ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Élysée, Jean-Christophe Gallien, politologue et président de JCGA et Julien Leclerc, chef d'entreprise et écrivain. On en arrive à notre troisième sujet de la soirée. C'est un scrutin très serré qui aura lieu dans quelques heures au Sénat argentin. La question divise toute la société. Faut-il, oui ou non, légaliser l'avortement? Les députés ont déjà donné leur feu vert. C'était au mois de juin, mais de justesse, 4 voix seulement ont fait la différence. Et au Sénat, l'issue est totalement incertaine. En fait, c'est 2 Argentines qui manifestent en ce moment dans les rues, les pros contre les anti-avortements. Et parmi celles qui espèrent la légalisation de l'avortement, Delia, elle a 55 ans et elle dénonce le poids de l'Église dans son pays sur cette question.
C'est très douloureux ce qui se passe ici. Des femmes pauvres meurent de plus en plus. On est au Moyen-Âge. Pour ceux qui sont contre l'avortement, il s'agit d'un sujet moral et religieux. Mais l'Église n'a pas à s'en mêler.
Delia au micro France Info de Caroline Vic à Buenos Aires en Argentine. Delia qui le dit clairement, pour elle, l'Église n'a pas à se mêler de cette question. Le pape François s'est pourtant pas gêné ces derniers jours pour rappeler qu'il fallait préserver la vie à tout prix. Alors l'Église a-t-elle raison de peser de tout son poids sur ce débat en Argentine? La question est volontairement provocatrice, Patricia Balme.
Écoutez, le pape va porter une responsabilité immense dans cette histoire. Alors, évidemment, l'Argentine, c'est le pays du pape. Le pape a eu tort, il s'est exprimé à 2 reprises sur ce sujet. Évidemment, il condamne l'avortement, c'est-à-dire la suppression de la vie. Le pape avait dit, au départ, qu'il ne se mêlerait jamais de politique. Là, il se mêle en tout cas d'un sujet de société très important. Il faut savoir qu'en Argentine, il y a 500 000 décès par an suite à des avortements clandestins. Le pape entretient de très mauvaises relations avec le président Macri. Moi, je connais bien ce pays et je connais bien le président Macri. Il faut savoir que, comme ce président est d'une droite libérale et que le pape est le pape des pauvres, il y a un antagonisme politique. Mais là, il s'agit plus de politique. Il s'agit de femmes qui, aujourd'hui, subissent des viols. Alors, je vous rappelle quand même une chose intéressante. En 2012, l'arrêt de la Cour suprême, donc, d'Argentine, avait déclaré qu'une IVG pratiquée à la suite d'un viol n'était pas punissable. J'ai envie de dire, mais heureusement. Donc, c'est un pays qui, aujourd'hui, est dominé par une partie, pour une partie de l'Église catholique, et de l'autre, de femmes qui se battent pour le droit à l'avortement. Je trouve, et 37 députés, enfin 37 sénateurs ont déclaré qu'ils voteraient contre, donc il y a vraiment, le Sénat est partagé en deux, c'est une régression, c'est un scandale. Mais le rôle du pape dans cette affaire, je le dénonce, parce que le pape aura une vraie responsabilité si la loi n'est pas adoptée.
Jean-Christophe Gallien.
C'est un sujet tellement sensible pour cette partie du monde et pour l'Argentine en particulier, pour les femmes en Argentine. C'est un sujet de société, mais c'est un sujet qui dépasse la société, un sujet politique, un sujet emblématique dans un pays qui plus est, subit avec une période économique compliquée, pour pas dire terrible, ces dernières années, et donc qui fait que la possibilité, encore une fois, pour celles qui peuvent le faire, d'avorter à l'extérieur du pays, est réservée à celles qui peuvent se le payer, pour être très clair. Là, en l'occurrence, le pape, effectivement, il est un peu dans son rôle global, mais sur le terrain en Argentine, dans son combat politique, vous l'avez dit, avec M. Macri, qu'il faut quand même souligner, il s'est mis, non pas du côté des gens qu'il est censé défendre, en tant qu'Argentin, puisque c'était son activité politique, pour le coup, et spirituelle en Argentine. C'est compliqué, et le Sénat, je crois bien que sur l'affaire, vous l'avez dit, qui est un Sénat comme beaucoup de Sénats à travers le monde, une chambre qui représente d'abord une partie moins urbaine de la société argentine, il y a peu de chances, effectivement, qu'il valide ce vote de l'Assemblée.
Le Sénat qui est effectivement plus conservateur là-bas aussi, Christophe Pirel.
Mais moi, je suis très à l'aise pour le dire, parce que je suis catholique, mais... Si seulement les religions pouvaient arrêter de faire de la politique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elles se concentrent sur ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire prier pour un monde meilleur, et qu'elles continuent à prier dans la sphère privée, et qu'elles arrêtent de nous embêter dans la sphère publique à vouloir faire de la politique. On l'a vécu en France sur le mariage pour tous, on l'a vécu sur d'autres sujets. À partir du moment où les religions, et moi je crois qu'il y a, on parle toujours de l'islam politique. Il y a un islam politique. Il y a un judaïsme politique. Il y a un catholicisme politique, et ça commence à être gonflant, parce que la société, en fait, tiraillée comme ça par les communautés et par les extrémismes religieux, parce qu'en fait, finalement, c'est ça, c'est une société qui va mal, et moi, je suis assez inquiet de voir ces intrusions comme ça sur des domaines très politiques, influencer justement le choix des peuples. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça.
Parfois,
et en
ça
même
aide.
Temps, oui. Alors,
parfois, ça aide.
Je suis plus.
Parfois, ça aide.
Je suis plus à l'aise quand le pape, par exemple, prend ses responsabilités sur les questions de migration, par exemple. Mmh. Il joue un rôle humain. Non, mais c'est une question humanitaire.
On est sur
un débat humanitaire. Là, c'est vrai que ça commence à être insupportable de voir les religions intervenir partout. Et donc, dans l'état dans lequel on est, en plus, qui est un état laïque, moi, je suis pour vraiment cette séparation. Et donc, mettons un peu d'air et un peu d'écart entre tout ça.
J'ajouterais juste une petite chose. Après. Je dirais simplement qu'il y a une sorte de schizophrénie dans le discours papal. Mmh. Parce que d'un côté, on défend la vie, c'est-à-dire il est contre la suppression de la vie, et de l'autre, on laisse plus de 500 000 femmes mourir suite à des avortements. Donc c'est quand même très schizophrénique.
Julien Leclerc.
Oui, je rejoins Christophe Pirel sur le fait que l'Église et les religions en général ont de toute façon été rarement des éléments moteurs dans l'évolution des modèles de société et également dans l'émancipation de la femme, quelles que soient les religions dont on parle. Donc on n'est pas, moi je suis pas hyper surpris, même si c'est vrai qu'il y a une espèce de situation paradoxale où on défend la vie mais on laisse des femmes mourir, et où on défend la pauvreté mais finalement si on interdit l'IVG dans son pays, ben on privilégie des classes aisées de société qui vont aller le faire dans le pays d'à côté. Faut replacer dans le contexte, faut imaginer que là-bas le débat en ce moment sur ce sujet-là, il est juste celui qu'on a eu sur le mariage homo ici, puissance 50, parce que c'est un pays à tradition hyper catholique. Malgré tout, tous ces pays, notamment d'Amérique du Sud, moi je connais un peu mieux le Brésil que l'Argentine, mais tous ces pays qui ont été d'anciennes dictatures arrivent sur des sujets de liberté de l'individu. Dans la liberté de l'individu, il y a la liberté de choisir sa vie privée, de choisir sa sexualité, de choisir si on a envie d'avoir un enfant ou pas. Donc c'est des sujets qui vont de toute façon bouger un certain nombre de sociétés en Amérique du Sud dans les années à venir.
Et on va poursuivre ce débat dans un instant. D'abord, il est 20h40, l'essentiel de l'info de ce mercredi soir, Augustin Arrivé.
157 emplois supprimés au sein des menuiseries Grégoire en Dordogne. Le groupe a été officiellement repris aujourd'hui par le fonds d'investissement Prudentia Capital, décision du tribunal de commerce de Paris. Les 260 autres emplois seront conservés. Alexis Kohler, de nouveau soupçonné de conflit d'intérêts, le site Mediapart publie des documents indiquant des contrats passés entre un armateur dirigé par des membres de sa famille et le port du Havre. Ceci à l'époque où l'actuel secrétaire général de l'Élysée siégeait au conseil de surveillance du port. L'association Anticor a porté plainte. 17 départements du sud de la France en vigilance orange météo France pour des risques d'orage. La vigilance canicule n'est plus d'actualité. Plusieurs plages marseillaises ont été interdites à la baignade. Les intempéries font planer un risque de pollution de la mer, même si pour l'instant la qualité de l'eau n'est pas affectée. Le mouvement de grève s'étend chez Ryanair. En plus des pilotes belges, suédois et irlandais, les Allemands et les Néerlandais se sont ajoutés au préavis posé pour la journée de vendredi. Conflit sur les conditions de travail et les salaires au sein de la compagnie. Après les députés argentins, les sénateurs du même pays votent ce
ce soir pour légaliser ou non l'avortement. Une majorité d'entre eux disent vouloir s'y opposer. Le projet de loi prévoit une IVG gratuite jusqu'à 14 semaines. Et puis un titre supplémentaire pour la France au championnat d'Europe multisport en Écosse. Il s'agit du 4x100 mètres de natation mixte avec l'or pour Mehdi Metella, Charlotte Bonnet, Jérémy Stravius et Marie Vatel.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Débat houleux et scrutin serré en perspective en Argentine. Ce sont les sénateurs qui auront donc le dernier mot sur la légalisation ou non de l'avortement dans le pays. Et dans les informés, on s'intéresse notamment au poids de l'Église dans ce débat. Trois quarts des Argentins se disent catholiques pratiquants et l'Église fait clairement campagne contre le droit à l'avortement. Est-ce qu'elle ne risque pas, là-bas comme ailleurs, cette Église de se couper finalement avec une partie des pratiquants, des croyants qui évidemment ne sont pas tous sur cette position dure contre l'avortement, Jean-Christophe Gallien?
C'est sûr que comme pour le marché politique, que Patricia connaît très bien, il y a un marché aussi des religions. On l'a vu partout en Amérique du Sud, il y a un combat. Donc c'est un combat, encore une fois, souvent comme un combat sur des positions d'extrême. C'est-à-dire que pour tenir ce qu'on a comme clientèle, entre guillemets, on est obligé de rester dans les fondamentaux. Parce qu'on voit arriver, notamment au Brésil, la religion catholique, elle est contestée par les évangélistes qui, sur certains aspects, sont un peu plus libéraux. Et puis sur d'autres aspects, ils sont beaucoup plus rudes, beaucoup plus durs, beaucoup plus conservateurs. Donc il y a une évolution et c'est un enjeu sociétal. C'est pour ça que je pense que, en même temps, la religion peut pas sortir du sociétal.
Et le pape Emmanuel.
Qui devient effectivement un enjeu politique tout le temps. Et le politique, par définition, il a besoin que toutes les parties prenantes de la société interviennent. Je crois pas qu'on peut souhaiter que la religion sorte du politique. Par contre, notre système laïque permet en tout cas de mieux coordonner cela que ce qui se passe aujourd'hui au pays. Et ce qui s'est passé dans l'affaire du pape, c'est qu'il a une position quasiment globale, donc géopolitique, mais là il intervient sur la politique interne de l'Argentine, comme il l'a fait d'ailleurs dans d'autres cas. Il l'a fait aux États-Unis avec Monsieur Trump sur l'affaire de la migration. Il ne se prive pas du tout de faire ça dans les débats nationaux.
Oui, mais enfin...
Mais j'ai juste rajouté, il y a un enjeu aussi politique. Il y a aussi un enjeu politique dans le Vatican lui-même. C'est-à-dire que c'est le genre de sujet sur lequel le pape, paradoxalement, il n'a pas le droit de pas s'exprimer. C'est-à-dire que même s'il a un avis contraire ou un avis modéré, de toute façon, pour tenir le Vatican, parce que c'est la politique politicienne aussi, en fait, le Vatican, il doit tenir ses équilibres, il doit faire en sorte que... Et donc, il va dans son pays, parce que à mon avis ça lui serait fortement reproché, aller faire de la politique aussi dans ce pays-là. Donc il y a des choses qui viennent se confronter de ce type-là, mais forcément c'est assez désagréable et ça donne, je trouve, une mauvaise image de cette religion. Et c'est bien dommage parce que pour le coup c'est quand même une des religions qui prône l'humanité, l'amour de l'autre, le libre arbitre. C'est quand même des choses qui devraient l'emporter en fait dans le débat public.
Mais quand on porte cette religion, donc le catholicisme, et qu'on couvre des prêtres pédophiles, on porte aussi une très lourde responsabilité.
Mais je crois que là-dessus, lui, a été très clair quand même. François Ier, pour le coup, a été plus clair que les papes précédents.
Je parle de ceux que l'on couvre.
Oui, c'est ça.
Voilà, le Vatican couvre des prêtres pédophiles, ce qui est quand même un scandale aussi. Donc je pense que la religion catholique, et en la personne du chef de l'État du Vatican, doit évoluer. Sinon, nous irons vers des dérives et le catholicisme, à mon avis, en prendra un coup en termes d'image ou de marketing.
Pour recentrer le débat sur l'avortement...
Non mais c'est important parce qu'il y a une différence entre le texte que ces religions portent et la façon dont ils sont portés. Et c'est quand même, l'interprétation est très variée, quoi.
Je voulais juste vous entendre là-dessus, puisque effectivement, le Sénat est un peu plus conservateur, cette loi ne risque pas de passer, peut-être. On verra ça. Mais en tout cas, est-ce que d'avoir eu ce débat, ça va ouvrir des portes aussi sur le continent sud-américain, qui est quand même un des continents les plus durs en termes de législation face à l'avortement?
Sous le contrôle de Patricia, qui est experte en politique argentine, je pense que les prochaines élections viennent un peu tard pour qu'il y ait un effet immédiat. S'il y a un vote négatif, pour que ça soit impliqué dans le débat politique, mais inévitablement. C'est-à-dire qu'on sait bien chez nous que ce genre de mouvement ne cesse pas et que ce qui se passe en Argentine va continuer, et certainement qu'à un moment donné, le droit à l'avortement va arriver en Argentine, comme il arrivera dans d'autres pays sud-américains, parce qu'il y a une conquête qui est faite de cette manière-là. Les enjeux sociétaux l'emportent souvent quand même.
Alors pour répondre juste à Jean-Christophe Gallien, je dirais que les femmes argentines sont des femmes très politisées. Il y a eu un modèle qui s'appelle Eva Perón, qui a fait que les femmes aujourd'hui prennent des sujets à bras le corps, ne lâcheront pas la politique et les faits de société.
Julien Leclerc.
Ce sont des sujets de société moderne qui de toute façon vont avancer. Donc si le Sénat vote non comme on s'y attend, ça sera quelques années de retard et ça viendra de toute façon.
Allez, on va passer au dernier débat de la soirée dans les informés de France Info. Placebo coûteux pour les uns, médecine douce et efficace et même irremplaçable pour d'autres. Le débat qui divise la France depuis des années. L'homéopathie, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est assez efficace pour mériter d'être en partie remboursé par la Sécurité sociale? La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, va saisir la Haute Autorité de la Santé dans les meilleurs délais, nous apprend aujourd'hui le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Et la question, c'est donc, doit-on dérembourser ces petits granulés blancs qui sont quand même prisés par près d'un Français sur trois, Christophe Pirel?
Je comprends pas qu'on remette ce sujet au cœur du débat public, parce que véritablement, je crois que c'est l'homéopathie, par contre, fait faire des économies en fait à la santé publique. On entend souvent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques que l'homéopathie ait des résultats. Et moi, j'ai retrouvé une étude qui s'appelle EPI3, qui a été menée de 2005 à 2012. Il y avait 825 médecins, il y avait 8559 patients. Et il a été prouvé à travers cette étude que dans les trois domaines principaux qui couvrent 50% du champ de la santé française, les résultats sont les mêmes avec l'homéopathie qu'avec la fameuse allopathie et la médecine qui aujourd'hui est conventionnelle en France. Et quand on a juste ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'en fait on se dit c'est les mêmes résultats à la fin, on se dit mais pourquoi s'en priver? Ça coûte 2,30€ un petit tube de granules, quand la plupart aujourd'hui des traitements qui sont imposés coûtent plusieurs dizaines d'euros. Et donc évidemment, je trouve que mettre ce sujet-là en essayant de faire croire que ça coûte de l'argent à la Sécurité sociale, c'est faire un contresens. En plus de ça, je pense que même parfois la mauvaise médicamentation aujourd'hui est plus dangereuse et plus coûteuse pour la santé publique. J'ai retrouvé une étude de 2011 qui disait que la population âgée de plus de 65 ans hospitalisée pour cause d'iatrogénie en fait médicamenteuse, c'est-à-dire une mauvaise prescription, était de 115 000 patients avec 7 457 décès par an. Ça veut dire qu'à un moment, il y a du danger aussi à trop médicamenter, à aller justement vers des médecines qui sont dures. Et on voit les effets néfastes que ça peut avoir. Donc ce débat-là, alors que c'est une médecine effectivement qui peut être douce, alors que c'est pratiqué par des médecins, parce qu'on a l'impression quand même quand dans ce débat-là que c'est des charlatans en fait qui sont dedans.
C'est ce que disent certains médecins, mais c'est d'autres médecins qui leur répondent.
C'est des docteurs en médecine qui ont fait 10 ans d'études et qui à un moment ont choisi cette spécialité-là parce qu'elle est plus douce, parce que justement elle permet d'autres choses, mais c'est des gens aussi qui sont pas des dangereux et quand il y a des maladies, notamment par exemple un cancer ou autre, savent réorienter vers de la médecine conventionnelle pour soigner. Donc il faut arrêter avec ce débat et je ne comprends pas que les pouvoirs publics mettent un coup là-dedans en agitant un sujet qui est pour moi était réglé, c'est-à-dire sur lequel enfin on était passé à autre chose.
Julien Leclerc.
J'espère aussi qu'il était réglé. Malheureusement, il est porté par des médecins qui sont totalement
responsables.
Oui, puis qui sont très attachés à ce qu'ils ont appris à l'école et qui manquent cruellement de curiosité. On confond très souvent l'homéopathie et sa caricature. C'est-à-dire que on oppose systématiquement l'homéopathie et la reste, comme si j'étais pour l'homéopathie, je disais que tous les autres médicaments servaient à rien. Il y a d'ailleurs une centaine de médecins qui ont publié une lettre ouverte dans Le Monde il y a quelques mois, mais d'une débilité profonde, pardon, et d'un aveuglement profond surtout, qui ont comparé les homéopathes à des charlatans. Ouais, ils ont utilisé le terme.
Dans Le Figaro, je crois.
Et donc, en face de ça, on a des médecins qui, eux, ont eu la curiosité de s'attacher à autre chose et qui sauvent des gens. Voilà, dire qu'aujourd'hui, l'homéopathie, ça sert à rien, c'est juste ne pas vouloir voir qu'elle sauve des gens. Et c'est pas parce que je dis ça, que je dis que les antibios ne servent à rien, que je dis qu'une chimio ne sert à rien. Je dis simplement qu'il y a tout un tas de médecins qui ont été curieux et qui ont regardé ce qu'on pouvait faire avec des principes actifs reconnus. Je vois pas pourquoi je devrais faire beaucoup plus confiance à des labos ou à des médicaments qui se retrouvent sur des listes noires de 60 millions de consommateurs qui me semblent pas être un site internet de fake.
Allez, l'homéopathie, on a entendu les pour, on va peut-être entendre les contre, on ne sait pas, mais c'est un débat qui se poursuit dans quelques secondes sur France Info. 20h50, l'essentiel avec Augustin Arrivé.
De nouveau de vives inquiétudes sur le massif du Mont-Blanc. Information ce soir de France Bleu Pays de Savoie. Trois alpinistes italiens sont portés disparus depuis hier matin. Deux hommes et une femme d'une trentaine d'années qui avançaient vers l'aiguille des Grands Montais. Disparition moins d'une semaine après la mort de trois Français sur le même massif. Le secrétaire général de l'Élysée siégeait au conseil de surveillance du port du Havre quand des contrats ont été signés avec un armateur dirigé par des cousins de sa mère. Révélation du site Mediapart qui valent à Alexis Kohler une nouvelle plainte
plainte de l'association Anticorps pour des soupçons de conflit d'intérêts. Le constructeur BMW va rappeler plus de 300 000 véhicules en Europe et la France est concernée avec 23 500 voitures diesel. Des risques d'incendie du moteur, les moteurs défectueux seront remplacés. La vigilance orange aux orages sur un arc de cercle allant des Pyrénées-Atlantiques aux Bouches-du-Rhône en remontant jusqu'à l'Allier. 17 départements au total, mais la canicule, elle, s'est estompée. 600 personnes dans le centre-ville de Grenoble pour une marche blanche en mémoire d'Adrien Pérez. Il s'agissait aussi de dénoncer l'insécurité dans l'agglomération. L'homme de 26 ans a été poignardé à mort fin juillet à la sortie d'une boîte de nuit. Simone Gbagbo est sortie de prison ce matin. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, accueillie à son domicile d'Abidjan par un millier de ses partisans. Elle a bénéficié d'une amnistie décidée par le président actuel Alassane Ouattara. Et puis une médaille d'or française aujourd'hui en Écosse, en natation. Les championnats d'Europe multisports continuent. Et donc ce titre décroché par le relais mixte du 4x100 mètres Charlotte Bonnet, Marie Vatel, Mehdi Metella et Jérémy Stravius.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Faut-il dérembourser totalement l'homéopathie, un marché qui représente 620 millions d'euros en France, 33% de la population qui dit y avoir recours. Pourtant, le ministère de la Santé se pose la question de l'efficacité de cette médecine douce. Et j'ai l'impression que vous aussi, Patricia Balm.
Écoutez, moi je vais faire hurler ceux qui sont là, mais ça ne fait rien.
C'est le but.
Mon avis est le suivant.
On criera pas trop fort.
D'abord, est-ce que l'homéopathie n'est pas une pharmacopée psychologique? Première question. Deuxième question, il y a certainement un effet placebo, et tant mieux. L'efficacité de l'homéopathie est-elle prouvée? Pas vraiment. Le prix des médicaments... Le prix de ces dilutions, ces petites globules blanches, c'est à peu près, je crois, 2 euros.
2,30 euros.
Donc, si vous voulez rembourser ces médicaments, quand on connaît le déficit de la sécurité sociale, je trouve ça un peu indécent. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des maladies graves. Je pense notamment à des personnes qui ont eu des cancers, qui se sont tournées vers l'homéopathie. Je ne dis pas qu'elles sont décédées à cause de l'homéopathie, mais je dis que ça ne l'a pas guéri. Donc moi, je pose des questions sur l'efficacité de l'homéopathie. Alors, je serais plutôt pour un déremboursement, effectivement, de l'homéopathie. Je ne vois pas l'intérêt de rembourser ces petites globules à 2 euros et cette dilution extrême. J'ai envie vraiment de savoir si ça fonctionne. Et à ce moment-là, les médicaments à base de plantes sont peut-être beaucoup plus efficaces que l'homéopathie.
Je vous ferai lire l'étude, mais enfin, franchement, entre nous, vous avez déjà pris du Doliprane et ça ne vous a pas guéri votre mal de tête.
Je ne prends pas de Doliprane.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens.
Il y a des mauvais médicaments.
Et ben voilà. Et pourtant, c'est remboursé.
Et pourtant,
c'est remboursé par la Sécu. Et donc, à un moment, si vous voulez. Moi, je veux bien tout entendre, mais par exemple, dans mon département, les Hautes-Alpes, il y a des agriculteurs qui soignent leur bétail avec de l'homéopathie. Et donc, c'est pas de l'effet placebo, c'est pas psychologique. Alors, à moins qu'on m'explique que, effectivement, les moutons chez moi, ils savent ce que c'est qu'un médicament. Mais ça veut dire qu'il y a des effets aussi sur les animaux. Ça veut dire que c'est pas psychologique. Ça veut dire qu'il y a d'autres ressorts. Il y a juste une chose qu'on ne dit pas dans l'homéopathie, c'est que c'est peut-être pas de la chimie, mais ça peut être aussi de la physique. Et que la question physique, elle peut aussi avoir des résonances sur le corps, et que ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et comme on ne l'apprend pas à l'école, eh ben, ça nous dépasse. Et comme ça dépasse tout le monde...
J'adorerais vous croire.
C'est pas une ordonnance, c'est la notice, le mode d'emploi d'un médicament. Vous voyez, ça, c'est un antidépresseur. Moi, j'en prends pas, mais c'est une notice antidépresseur. Dedans, ça fait 4 pages, et on nous explique que tout le mal que ça nous fait... Eh ben, j'ai ramené un tube d'homéopathie, excusez-moi, mais dessus, il n'y a pas 50 000 recommandations pour pas vous faire mal.
Ça ne fait peut-être aucun effet.
Sauf que ça, il y a 50%, il y a exactement le même nombre de personnes qui se guérissent grâce à ça que grâce à ça d'après l'étude que je viens de vous dire. Donc la preuve que ça marche. Donc cette question-là, je la trouve, mais juste complètement déplacé dans un contexte où en plus on fait faire des économies à la sécurité sociale grâce à l'homéopathie.
C'est un point important. Il y a à la fois l'économie, les emplois en France du secteur homéopathique sont pas rien, notamment dans certaines parties régionales d'Alion en particulier. Mais c'est un peu l'idée que finalement il y a aussi de l'alternatif à la chimie et à ce qui se passe ailleurs. Il faut savoir que le professeur Montagnier, qui était celui qui a découvert en France le virus du sida et qui a été un des premiers acteurs sur le traitement, il travaille en ce moment sur ce qu'on a pu appeler dans l'histoire ancienne la fontaine de jouvence. En fait, que l'eau
peut nous aider, nous soigner. Et donc, il travaille en ce moment à la programmation, entre guillemets, je vais le faire très simple, de l'eau, et ce qui serait presque comme une solution extraordinairement gratuite, presque gratuite, au traitement d'un certain nombre de maladies, pour pas dire beaucoup. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin que la chimie peut nous permettre de le faire aujourd'hui. L'homéopathie, c'est un chemin. 2,50 effectivement, avec une marge en termes de fabrication qui est aussi très importante. Donc, ça veut dire que c'est pas vendu très cher, mais en même temps, je pense qu'en termes de fab, c'est quelque chose qui est assez rentable. Donc, on peut jouer effectivement dans l'économie de la santé sur des variations de remboursement, des choses comme ça, mais être aussi violent, ou en tout cas, annonce d'une violence de ce type, c'est-à-dire fermer un secteur, là, c'est difficile.
Je rappelle que c'est remboursé qu'à hauteur de 30% aujourd'hui. Hein. Julien Leclerc.
Alors, Patricia Balm, la prochaine fois que vous avez une migraine, mettez de la lavande fine sur vos tempes, ça marche très bien. Je suis désolé, je vous parlais un petit peu de ma vie, mais il y a un an, ma compagne est tombée gravement malade, elle a été handicapée du jour au lendemain, 35 ans, elle peut plus marcher, elle peut plus bouger, aucune explication, elle a été hospitalisée 5 fois, elle a failli mourir, on a suspecté une maladie tropicale, chikungunya ou Lyme, mais tous les tests sont revenus négatifs. Si on avait su la diagnostic à ce moment-là, les antibiotiques auraient été très efficaces. Voilà, donc je suis pas anti, je compte les antibiotiques, mais derrière, on a mis des mois à la diagnostiquer, et je peux vous le dire, elle a été sauvée par des médecines alternatives, parce que derrière l'homéopathie, c'est aussi des médecines alternatives. Ce que je ne comprends pas, j'insiste là-dessus, ce n'est pas que la médecine traditionnelle allopathique ait des limites, c'est le manque de curiosité de certains médecins qui ne veulent pas voir que ça marche.
Il faut pas opposer.
Allez, merci, c'est déjà la fin des informés pour ce soir, on n'a pas vu le temps passer. Merci à vous Patricia Balm, Christophe Pierrel, Jean-Christophe Gallien et donc Julien Leclerc. On se retrouve nous demain à 20h pour un nouveau numéro des Informés sur France Info. Excellente soirée.